Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Chapitre 2 de la quatrième partie, La sorcière, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. La mère Allais demeurait au commencement de la grande rue Saint-Jacques. Les deux jeunes gens furent bientôt rendus. « Eh bien, quoi de neuf ? » fit le journaliste à son compagnon, tout en dégustant un verre d'eau-de-vie. « 4 et 5 font 9, » répliqua Jacques, avec le rire de la niaiserie satisfaite. « Pas fort, mon coq, pas fort, » ajouta aussitôt l'autre. « Avec des jeux de mots de ce calibre-là, tu ne feras pas fortune. » « On ne fait pas ce qui est fait, » riposta Jacques d'un air suffisant. « Peste ! Je n'ai pas besoin de travailler pour vivre, moi. Heureusement que monsieur ton beau-père s'est amusé à te précéder en ce bas monde. Tu dois une fière chandelle à la Providence, mon gros. »« Dame, ça se peut bien, » répondit Bourgeot, ne comprenant pas l'allusion cachée sous cette phrase banale. « Mais quelle nouvelle ? Tu en sais des nouvelles, toi qui écris dans la Gazette ?»« On dit que madame B est accouchée d'un enfant à deux têtes. » »« Un enfant à deux têtes ?»« Oui, un monstre. » »« Et il est vivant ?» Non, mort-né. On ne l'enterrera pas au cimetière, je pense. Pourquoi non? Un enfant à deux têtes? Seigneur! Mais c'est une conception du diable! L'as-tu vu? Comme je te vois. Jacques recula épouvanté en faisant un signe de croix. Tu ne l'as pas touché, au moins? Balbutia-t-il. Au contraire, je l'ai palpé et puis t'assuré qu'il était parfaitement conformé. Tu n'aurais donc pas osé... Moi? S'écria Bourgeot, essayant de vaincre la peur que lui causait cette révélation. « Moi ! Ah ! J'aurais fait comme les autres ! Un enfant à deux têtes !» On dit que des voleurs se sont introduits dans un magasin de joaillerie et ont enlevé des bijoux pour une somme considérable, reprit le journaliste, en riant sous cape de la pusillanimité de son crédule auditeur. On dit que M. G se sépare d'avec sa femme, qu'il aurait surprise en tête-à-tête avec un trop aimable cousin. Mais la grandissime nouvelle, cette nouvelle, la nouvelle par excellence, c'est la nouvelle qui a mis toute la ville en émoi, débonderas-tu ? C'est la nouvelle de l'évasion d'Alphonse Maigret. Alphonse Maigret ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne connais pas ce nom-là.
Tu m'étonnes.
Ah ben, crois-tu que j'ai des relations avec les escrocs, moi, Jacques Bourgeot, qui aura un jour plus d'un millier de louis de revenus ? Alphonse Maigret est pire qu'un voleur, c'est un brigand de rebelle. Il était le chef de l'insurrection qui faillit éclater à Montréal, lors des dernières élections, tu te rappelles? Ah, c'est un annexionniste. Oui, un américanisateur. Il avait été arrêté et jeté en prison, grâce à la bravoure de notre police anglaise. Et il s'est échappé, le gredin? Il s'est échappé la nuit dernière. On lui avait donné pour camarade de chambre un vaurien, accusé, il me semble, d'avoir forgé un bill. Ils ont limé les barreaux de leur cachot et se sont sauvés? Pas tous deux, car le coquin a été, dit-on, repincé immédiatement, et le scélérat, le Maigret, lui-même, il a déjoué les recherches de la police. On ne l'a donc pas aperçu? Que si! Les soldats lancés à sa piste l'ont suivi pas à pas jusque dans Wolf Street, et là, ils ont perdu sa trace. Ils auraient dû tirer dessus comme sur un chien enragé. Impossible, il pleuvait à verse, et c'est à peine si les fantassins pouvaient entrevoir son ombre à travers les ténèbres. Les damnés bostonnais vont être joliment contents. Note, au Canada, les gens qui cherchent à annexer la colonie aux États-Unis sont ainsi nommés. Fin de la note.
Oh, qu'ils ne se réjouissent pas à l'avance. Alphonse n'est pas loin, c'est sûr. Il a reçu une blessure. On a distingué des taches de sang au bas du mur de la prison. Évidemment, il est caché en quelque place du faubourg Québec. Nos policemen ont le nez fin. Je parierais bien que la journée ne s'écoulera pas sans qu'ils aient flairé leur homme. Ne disais-tu pas que c'est dans la rue du Loup qu'il a disparu ?
Oui, mon gros, dans Wolf Street. Buvons-nous un autre coup ?
Comme tu voudras.
Bon, voilà que tu rajustes ta physionomie d'âme en peine.
C'est bien dans la rue du Loup, reprit Jacques, en fourrant le pouce dans son nez, geste qui annonçait chez lui une vive contention d'esprit.
Es-tu sourd ? Je te l'ai déjà répété deux fois.
Ah, c'est dans la rue du Loup.
Encore ? Faudra-t-il te le rabâcher jusqu'à demain ? C'est dans Wall Street, autrement la rue du Loup, ou du général Wolfe. Est-ce que cela ne te suffit pas ? Mais j'y songe, elle doit être familière, cette rue-là. L'idole de tes amours, la jolie fille du faubourg Québec, ne niche-t-elle pas dans ces parages ?
Que t'importe ? Répondit Jacques d'une voix brève.
Oh, oh, mon coq, est-ce que nous nous fâcherions ?
Sois sans crainte, je ne m'aviserai pas de courir sur tes brisées, bien que la divine Angèle...
Assez !
M'empêcheras-tu de faire l'éloge de ta maîtresse ?
Elle se passera bien de tes sots compliments.
Merci, monsieur Jacques. Votre incomparable franchise séduit mon cœur à un point indicible. Trinquons ensemble, morbleu. Deux sots de notre espèce auraient tort de se quitter sans fraterniser.
Je suis une bête, dit Bourgeot, qui voulait obtenir par une maladroite concession quelques renseignements plus précis.
Tu ne me l'apprends pas.
Méchant critique.
Chacun son métier.
Tu ne sais plus rien sur le compte de l'évadé ?
Non, ma foi.
On l'a sans doute interrogé.
Ça me paraît friser toutes les facettes de la probabilité, repartit l'autre d'un accent superbe.
Et le nom du rebelle, je ne m'en souviens plus.
Alphonse Maigret, un charpentier de Québec, un tribun de carrefour, un pilier de taverne, un ivrogne, la lie du peuple.
Il est blessé ?
À preuve que, sans la pluie, il aurait laissé derrière lui un ruisseau de sang.
Vraiment ?
Mais quel intérêt ?
De l'intérêt à un pareil misérable, moi, tu badines !
Interrompit Jacques avec une brusquerie qui aurait éveillé l'attention d'un observateur plus clairvoyant que le jeune diplomate à qui il s'adressait.
8 heures, dit celui-ci en tirant sa montre. Diable, c'est demain jour de publication. Faut que j'aille à mon bureau. Tu paies la consommation. Je n'ai pas de change.
Note, monnaie. Fin de la note.
Pas de change, ça lui arrive plus souvent qu'à son tour.
Marronna Bourgeot, en soldant l'écho, tandis que le journaliste s'éclipsait sournoisement. Fin du chapitre 2 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Ekerd-Boulet à Copenhague en décembre 2010.
Chapitre 3 de la quatrième partie. La sorcière. De la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Jacques se promena pendant près d'une heure, après être sorti de la barre, note, buvette, fin de la note, de la mer à lait. 1000 pensées se heurtaient dans son cerveau. Malgré son peu de perspicacité, il faisait entre l'évasion d'Alphonse et la scène dont il avait été témoin, dans la matinée, des rapprochements qui pouvaient être fatals à l'évadé, aussi bien qu'à ceux qui lui prêtaient si charitablement aide et asile. Mais Pierre Morlaix était un citoyen estimé de tout le monde. Pour l'accuser, il fallait des preuves. Bourgeot n'en avait aucune. D'ailleurs, son amour-propre, sa vanité, acceptait avec répugnance la vraisemblance de la trahison d'Angèle. Car nous sommes ainsi faits. Quand nous désirons fortement qu'une chose tourne à notre avantage, il nous en coûte tant de la voir se déclarer notre ennemi que nous combattons même l'évidence. Cet axiome est surtout vrai en amour. Il n'est point d'amant qui, sûr d'être trompé et ayant formé un plan de vengeance, ne sera heureux si sa maîtresse parvient à se disculper. La recherche du bonheur nous préoccupe à ce point que nous préférons le bonheur imaginaire au malheur en perspective. En somme, les apparences nous plaisent plus que la réalité, surtout quand elles sont favorables à la satisfaction de notre moi. Fin du chapitre 3 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet, à Copenhague, en décembre 2010.
Chapitre 4 de la quatrième partie, La sorcière, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. Jacques, donc, se détermina à garder, durant quelque temps, le silence et à épier ce qui se passerait dans la maison du charretier. Il reprit incontinent le chemin de la rue des Voltigeurs. Mais, comme il approchait, il rencontra Pierre Morlaix, qui se rendait, avec sa voiture, à sa station habituelle.
« Ah ah, vous v'là, monsieur Jacquet !» dit gaiement le brave cocher. « Vous ne faites pas un tour ?»«
On m'avait dit que tu étais engagé ?»«
Moi ? Oh oui, mais j'ai laissé mon bourgeois en haut du faubourg, et maintenant je suis libre.
À votre service, monsieur Jacques.
Est-ce que tu pourrais me conduire à la pointe aux Trembles ?»«
Si ça vous convient.
Pas de soin, monsieur Jacques. Dans une petite heure, nous serons arrivés. »«
Allons, » dit Bourgeot, en montant dans la calèche.
Puis, se ravisant, « À propos, quelle heure est-il ?» Pierre Morlaix tira de son gousset une de ces grosses montres en argent, communément désignées sous le nom de bassinoire.
« 9h-25, » répondit-il, après avoir consulté le cadran.
« 9h-25 ? Alors je change d'avis, tu vas me conduire à la Chine. »
Fin du chapitre 4 de la quatrième partie, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010.
Chapitre 5 de la quatrième partie, La sorcière, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. Le temps était superbe. Jamais soleil plus radieux n'avait doré de ses rayons les riches campagnes du Canada. Jamais plus diaphane azur n'avait réjoui les plaines célestes. Jacques Bourgeot n'était pas homme à se laisser impressionner par les charmes de la nature, en ce moment surtout. Aussi, dès que la calèche eut dépassé le village des Tanneries, commença-t-il, avec son conducteur, la conversation suivante.
« Eh ben, Pierre, y en a-t-il du nouveau ce matin, en ville ?»«
Du nouveau ? Ah ben, quoi donc, monsieur Jacques ? Moi qui ne sais rien encore. »«
Tu n'as rien appris ?»«
Rien en tout. Le particulier que j'ai charrié, ce matin, était muet comme le travail de ma calèche.
Tu ne le connais pas ?
Pas un brin, répondit Pierre en excitant ses chevaux.
Cependant, reprit Bourgeot, il court un bruit.
Vous dites, monsieur Jacques ?
Il court un bruit.
Le chef de la rébellion s'est évadé.
Qui ça ?
Demanda Morlaix en toussant pour voiler le trouble de sa voix.
Alphonse Maigret, tu sais, un ruffien, un gueusard.
« Et il a déserté la prison ?»«
Pendant la nuit dernière. »«
C'est-il bien possible, monsieur Jacques ?»«
Comment, tu ignorais cela, toi ?»«
Ma foi, monsieur Jacques, c'est la première nouvelle. Mais où est-ce qu'il s'est réfugié ?»«
Tu le sais peut-être mieux que moi, » dit l'amant d'Angèle, en se penchant pour voir quel effet ses paroles produiraient sur Pierre Morlaix.
« Moi ?» répliqua celui-ci, avec le plus grand sang-froid.
« Ah ben, vous voulez rire, monsieur Jacques ?»
Tiens, ajouta Bourgeot, d'un ton assez badin pour dissiper les soupçons que sa question avait fait naître dans l'esprit du charretier, si c'était, par hasard, ton voyageur de ce matin.
Hé, 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 farceur de monsieur Jacques, va, mon voyageur de ce matin, hé, oh, hé. Qu'y aurait-il d'impossible ?
Ah, nous arrivons, dit Pierre, en montrant les blanches maisons de la Chine, éparpillées au milieu d'une verdoyante prairie qu'ombrageaient des bouquets d'arbres touffus. « Où débarquez-vous »«
Près de la traverse, » repartit Bourgeot. « Je vais à Caughnawaga. Tu attendras mon retour. »
Bientôt, il sauta à terre en murmurant « Puissé-je trouver cette vieille sorcière d'Iroquoise ?»
Fin du chapitre 5 de la quatrième partie, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 6 de la quatrième partie, La sorcière, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. À l'extrémité septentrionale du village iroquois de Caughnawaga, on voyait alors une hutte,
longue de 20 pieds sur une profondeur de 15. Elle était formée de pieux fichés en terre, revêtue d'un bousillage de glaise et surmontée d'une toiture d'écorce. De chaque côté, une porte, faite d'écorce suspendue, donnait accès dans cette hutte, dont l'intérieur, éclairé par des trous pratiqués dans le mur, était aussi misérable que l'extérieur. Au centre était le foyer, près duquel une demi-douzaine de chiens décharnés, le museau entre les pattes, reposaient ordinairement leurs membres étiques. À des poutrelles transversales étaient accrochés des quartiers de venaison, des bottes d'herbage de toute grandeur et des chapelets de poissons. Des planches de bois blanc, disposées en rayons, à une verge du sol, s'étendaient autour de la cabane. Sur ces rayons, on apercevait divers ustensiles de ménage, comme poteries en terre cuite, écuelles et marmites de bois, et un tas de ces gros cailloux que les sauvages, avant qu'ils connussent la vaisselle de terre et de métal, faisaient rougir au feu, puis qu'ils jetaient dans des vases pour chauffer l'eau ou cuire les aliments nécessaires à leurs besoins. Dans un coin, il y avait un lit de sapinette recouvert d'une peau d'original et, vis-à-vis, une sorte de grande chasse dans laquelle on apercevait des figures de bois aux formes bizarres et monstrueuses. Ces figures représentaient les idoles autrefois adorées par la nation iroquoise lorsque les fils des Sagamos étaient tout-puissants et fiers. C'était, d'abord, Agreskoué, le souverain être et dieu de la guerre, Atahensik, qui commandait la foule des mauvais génies, Tuskeka, chef des bons esprits, Malkomek, etc. Chacune de ces divinités, peinte avec des couleurs tranchantes, portait le signe de ses attributs. Enfin, au pied de la chasse, immédiatement sous une des ouvertures par lesquelles le jour pénétrait dans la hutte, scintillait une couche de poussière dont les nuances vives, variées et chatoyantes, éblouissaient l'œil. Cette poussière était le produit de petits coquillages, soigneusement pilés et renfermés dans un cercle de frêne, ayant environ 2 pouces de hauteur. Du milieu s'élançait une baguette garnie de peaux de serpents enroulés et qui hérissait de leur tête hideuse la tige et le bout de ce nouveau caducé. Accroupie devant le cercle, une femme étudiait avec attention les traces que 2 lézards laissaient sur la poussière en tournant autour de la baguette, à laquelle ils étaient attachés par des fils venant rayonner à la circonférence. Cette femme était riche de vieillesse et de laideur. Elle avait le costume des Iroquoises, une couverture de laine brune, un braillet, des mitasses et des mocassins ornés de verroteries et de broderies bariolées. Son visage était tatoué, sillonné de rides profondes. À son nez et à ses oreilles pendaient des anneaux d'argent et un collier de graines rouges, avec une tête de vipère en guise de médaillon, descendait sur sa poitrine sèche et terreuse. Cette femme était la vipère grise, la sorcière iroquoise. Elle se disait issue de la Chaudière Noire, ce fameux Sagamos qui, en 1691, causa de si terribles ravages dans les colonies du Canada. Note, voir les Sagamos illustres par M. Maximilien Bibaud, chapitre 26. Fin de la note. Et elle jouissait d'une haute considération parmi ses compatriotes. Quoique la plus grande partie de la tribu iroquoise encore cantonnée au Sault Saint-Louis fût déjà convertie au catholicisme, la vipère grise exerçait une influence immédiate sur le conseil des chefs qui, en maintes occasions, se prévalait de ses jongleries pour faire adopter des résolutions importantes. Fin du chapitre 6 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 7 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Après avoir traversé le Saint-Laurent en canot et abordé à Caughnawaga, Jacques Bourgeot s'achemina vers l'habitation de la vipère grise. Le jeune homme était sombre et presque tremblant. Il hésita durant plusieurs minutes avant de s'introduire dans l'antre de la sibylle sauvagesse, puis, enfin, prenant son courage à deux mains, il entra. La vipère grise, en entendant le bruit de ses pas, prit un tam-tam, fait d'un tronc d'arbre creux recouvert d'une peau d'élan, et, sans changer de position, sans tourner les yeux, frappa dessus en cadence avec un bâton court. Jacques demeura debout contre la porte, n'osant ni parler ni avancer. Les chiens s'étaient dressés sur leurs pattes et grondaient sourdement. Tout à coup, la sorcière, s'animant au son de la musique, rejeta sa couverture en arrière, se leva vivement et chanta d'une voix chevrotante en s'accompagnant de son tambourin. Fin du chapitre 7 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 8 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8.
Un jour, le grand esprit s'ennuyait au-dessus des nuages, dans le monde des esprits, parce que, depuis longtemps, il n'était venu sur la terre et qu'il ne savait pas ce qu'étaient devenues les créatures sorties de ses mains créatrices. Le grand Manitou est bon et puissant. Il avait fait la lune, le soleil, les étoiles, la terre, les plantes, les bêtes, pour qu'ils fussent heureux. Mais il se défiait de l'esprit noir qui n'aime que le mal. Pour s'assurer par ses yeux de la vérité, il descendit sur la terre au bord d'un étang. Il vit, dans les ondes transparentes, une carpe qui se promenait sur le sable doré. Aussitôt, il se change en carpe et se laisse glisser dans l'eau. « Eh bien, ma chère amie, dit-il à la carpe, tu dois être très heureuse ici, car les eaux que tu habites sont limpides et tu trouves abondamment des vermisseaux pour vivre. »« Moi, heureuse, répondit la carpe, eh, comment pourrais-je l'être, quand je vois sans cesse à ma poursuite le brochet prêt à me dévorer ?» Manitou poussa un soupir et sortit de l'eau. Il aperçut un bison qui paissait dans une savane. Il se changea en bison et l'aborda. « Mon ami, lui dit-il, tu dois être très heureux, car tu habites une savane où l'herbe tendre te vient jusqu'au ventre, et tu es assez fort pour te défendre de tes ennemis. « Comment serais-je heureux, répondit-il, quand mes yeux sont constamment tournés vers la forêt pour en voir sortir, avec fracas, le mammouth géant qui se précipite sur mes frères et les dévore. » Manitou soupira et entra dans la forêt où il rencontra un écureuil. Il se changea en écureuil et grimpa sur l'arbre où le petit animal avait établi son nid. « Tu dois être heureuse ici, car tu trouves en abondance les fruits dont tu te nourris et ton agilité te sauve des bêtes féroces. Comment serais-je heureux quand les arbres défeuillés sont couverts de frimas et que la volverenne ou le lynx viennent dévorer ma famille jusque dans les arbres les plus élevés ?»
Note, volverenne, espèce de loup cervier. Fin de la note.
Manitou suivit le bord du fleuve. Il vit une vache marine paissant l'herbe du rivage, emportant son petit dans ses bras. « Tu dois être heureuse, car tu aimes ton enfant et tu en es aimée. »« Je serai moins malheureuse, répondit la vache marine, si les lynx, les volverennes, les loups et cent autres animaux carnassiers n'étaient sans cesse cachés dans les joncs pour surprendre mes enfants. » L'hiver, quand les glaces renferment le fleuve, puis-je prendre mon malheur en patience ? Manitou devint triste. Il se disposait à remonter vers le ciel lorsqu'il aperçut plusieurs animaux fort occupés dans la petite île d'un lac. C'étaient des castors. Il se changea en castor, s'approcha d'eux et leur dit « Eh bien, vous êtes sans doute malheureuses aussi, vous autres, car je vous vois obligées de travailler pour vous faire des cabanes qui vous abriteront contre l'intempérie des saisons. « Nous, malheureux ? » dit un de la troupe. « Pas du tout, car le grand esprit nous a doués de sagesse et de prudence. » Manitou fut consolé et dit « Puisque la sagesse et la prudence font le bonheur, je veux faire des créatures tout à fait heureuses.
Alors, il agrandit la cabane des castors, les changea en hommes, augmenta leur dose de sagesse et de prudence, leur apprit à chasser les ours et les élans, et leur dit « Allez !» Ensuite, Manitou remonta dans le monde des esprits et dit « Je suis content, car j'ai bien fait ce que j'ai fait. »
Note, nous avons emprunté la traduction de ce chant à l'Encyclopédie canadienne, à laquelle il avait été adressé une lettre conçue en ces termes. Monsieur Bibot, la chanson suivante des Sauvages du Canada, si on s'en rapportait à elle, établirait le fait qu'autrefois Lamantin et Mammouth existaient dans ce pays. Je vais rapporter quelques fragments, traduits du langage des Sauvages du Canada, qui la chantent encore comme une des plus importantes de leur tradition. K. Encyclopédie canadienne, rédigée par M. Bibot, père. Tome 1, page 62-63. Fin de la note. Fin du chapitre 8 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 9 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. À mesure qu'elle poursuivait son chant, l'Iroquoise se livrait à des danses fantastiques et à des contorsions si étranges, si furibondes, que Jacques, épouvanté, voulut s'enfuir. Mais, pendant ce temps, les chiens s'étaient rangés devant la porte et en gardaient la sortie en grinçant les dents d'une manière menaçante. Force fut au jeune homme de rester. Quand la vipère grise eut fini cette pantomime parlante, elle s'approcha de l'étranger et, dardant sur lui ses yeux fauves, mouchetés de taches sanguinolentes, « Pourquoi, ô visage pâle, as-tu quitté la rive gauche de l'Adawana ?» Note, le Saint-Laurent. Fin de la note, pour venir à la fille du grand chef. Ignores-tu les maux que tes frères ont infligés à tous mes frères de la famille Mohawakehuron? Le Machi Manitou, note, esprit du mal, fin de la note, est irrité contre ta race. Il m'avertit que bientôt elle sera dispersée, anéantie, par une troupe plus nombreuse que les grains de sable du rivage, qui accourt pour venger les calamités dont toi et les tiens avez abreuvé les enfants de Taroniawagon. Note, père des humains, suivant les croyances religieuses des sauvages du Nord. Fin de la note.
Oui, je la vois. Elle avance, elle avance. Des guerriers braves grossissent ses rangs. Entends-tu le bruit de leurs pas, ébranlant la terre comme un troupeau de bisons? Écoute ce qu'ils disent. Mort, mort au visage pâle! Ils ont porté la peste, le fer et le feu dans nos wigwams. Os de nos vaillants ancêtres, apprenez au guerrier à ouvrir les veines de son ennemi et à boire dans son crâne le sang de la vengeance. Mort, mort au visage pâle, qu'ils tombent sous nos tomahawks comme le daim sous la flèche du chasseur, que leurs chevelures ornent nos cabanes, que leurs cadavres fumants engraissent la tombe de nos pères.
Jacques fit peu attention à ces paroles. Mais tirant de sa poche 2 louis d'or, il les plaça dans la main de la magicienne. Fin du chapitre 9 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 10 de la quatrième partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10.
Ah ! Dit-elle, en considérant les deux pièces avec un air de cupidité, tu as vu un Ohiarou ?
Note, objet du culte chez les Iroquois, la première bagatelle qu'il voyait en songe. Fin de la note.
En songe, et tu veux consulter Ouaïcha ?
Note, dieu de la science divinatoire. Fin de la note.
Par qui je connais les choses passées, présentes et futures.
Je n'ai rien vu en songe, dit Bourgeot. Je veux savoir si ma maîtresse me trompe.
Le cœur d'une femme est profond comme l'onde du lac salé, répondit emphatiquement la vipère grise. Atawata,
note, le dieu de la cosmogonie, fin de la note,
a créé la femme avec un nuage de son ciel. Hougoao seul peut dire ce qu'était Atahensik.
Note. Pour savoir ce que c'est que Hougoao, il faut interroger la tradition de la création comme elle s'est transmise chez les sauvages du Nord. Au commencement, disent-ils, il y avait 6 hommes. Il n'y avait pas alors de femmes, et ils craignaient que leur race ne s'éteignît avec eux, lorsqu'ils apprirent qu'il y en avait une au ciel. On tint conseil, il fut convenu que Hougoao monterait, ce qui parut d'abord impossible. Mais les oiseaux lui prêtèrent le secours de leurs ailes et le portèrent dans les airs. Il apprit que la femme avait coutume de venir puiser de l'eau auprès d'un arbre, au pied duquel il attendit qu'elle vînt. Et la voici venir, en effet. Hougoao cause avec elle et lui fait un présent de graisse d'ours. Une femme causeuse qui reçoit des présents n'est pas longtemps victorieuse. Celle-ci fut faible dans le ciel même. Dieu s'en aperçut et dans sa colère la précipita en bas. Mais une tortue l'a reçue sur son dos, où la loutre et d'autres poissons apportèrent du limon du fond de la mer et formèrent une petite île qui s'étendit peu à peu et forma tout le globe. Les Sagamo illustres, introduction. Fin de la note. Note. Atahensik, d'après Charlevoix, nom de la première femme et génie du mal. Fin de la note.
Toi, mon frère, tu as un rival.
Un rival ? S'écria Jacques.
Un rival puissant par ses charmes et ses maléfices, répéta la magicienne avec exaltation. Viens !
Le saisissant par le bras, elle l'entraîna vers l'âtre, attisa le feu et plaça au-dessus une chaudière en fer battu qu'elle remplit d'eau. Ensuite, elle jeta dans la chaudière une poignée d'abesuchensa, ginseng, note, nom qui veut dire enfant et qui appartient à une plante dont la racine ressemble à un embryon. On attribue à cette plante des propriétés médicinales extraordinaires. Les botanistes l'appellent Aureliana canadensis. Fin de la note. Et d'autres plantes médicinales dont elle surveilla la cuisson en observant les globules qui montaient à la surface de l'eau. La décoction lui ayant paru suffisante, elle plongea 3 fois ses mains dans le vase, les éleva en l'air, les joignit, en trépignant comme un énergumène, et poussa des cris affreux. À ces cris, les chiens mêlèrent leurs rauques aboiements, et bientôt ce fut, dans la hutte, un charivari infernal. Le tumulte apaisé, l'Iroquoise puisa dans la chaudière avec une écuelle en bois et tendit le breuvage à Jacques.
« Bois, mon frère, bois !» lui dit-elle. « Par sa vertu magique que m'a enseigné Malcomek, l'esprit des hivers, l'abbé Suchensa purifiera ton corps de toutes ses souillures et ton âme s'élancera, à travers l'espace infini, dans les prairies où habite Ouaïch. »«
Boire ça ?» fit Jacques, sans déguiser sa répugnance.
« Bois, mon frère, bois! Le temps s'écoule, emportant parcelle à parcelle les lambeaux de l'existence, comme la bise emporte, une à une, les feuilles de l'érable. »«
Mais à quoi bon ?»«
Bois ou frémis, l'esprit du mal est là qui te presse !»
Moitié par frayeur, moitié pour complaire à la vipère grise, Jacques porta l'écuelle à ses lèvres. Mais à peine eut-il goûté à la potion bouillante qu'il laissa tomber à terre contenant et contenu avec une exclamation de douleur.
« Maudite sorcière ! S'écria-t-il, j'ai la langue brûlée !»
L'Iroquoise ne l'écoutait pas. Agenouillée devant le liquide répandu, elle suivait anxieusement les filets qu'il décrivait en serpentant sur le sol. Fin du chapitre 10 de la 4e partie, enregistrée par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 11 de la 4e partie, La sorcière, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11.
Michabou,
note, nom du premier esprit, ou grand lièvre. Fin de la note.
Et propice, dit subitement la vipère grise en bondissant. Il m'inspire, il me pénètre, il me captive. Que désires-tu?
« Je veux savoir si ma maîtresse me trompe, » répéta machinalement Bourgeot.
« Ta maîtresse, la fille aux pâles couleurs, je l'aperçois. Elle est là, elle voltige comme le papillon. »«
Elle en aime un autre. »«
L'amour, la jalousie, l'intérêt conduisent les fils d'Atahensic.
C'est elle qui a donné asile aux rebelles ?
Rien n'échappe aux serviteurs d'Ouaïche.
Mais qu'y a-t-il, Angèle ?
La fille aux pâles couleurs est chérie de Jouskeka. Il la protège, il lui tresse une couronne de fleurs. À son bien-aimé, il présente le calumet de la paix.
Ton langage m'assomme, je n'y comprends rien.
Avance, dit la vipère grise. Nous allons préparer la sagamité.
Et elle versa, dans la marmite, un pot de farine de maïs qu'elle remua pendant 5 minutes à l'aide d'une spatule en bois. Bourgeot la regardait toujours avec une curiosité mêlée d'effroi. Quand la bouillie fut assez épaissie, l'Iroquoise enleva la chaudière de dessus le brasier.
« Mangeons !»
Le jeune homme refusa de prendre part au festin.
« Prends garde !» dit la vieille. « Taouiscaron se prononcera contre mon frère. »
Note, Taouiscaron, esprit malfaisant. Il était fils d'Atahensic et tua son frère Soukeka. Cette tradition est identique à celle de Caïn et Abel, de même que la plupart des traditions cosmogoniques des sauvages ont une analogie frappante avec la tradition mosaïque. Fin de la note. Dis-moi si Angèle me trompe.
La Vierge aimée de mon frère est bien belle.
Qu'est-ce que cela te fait?
La Vierge aimée de mon frère est plus parfumée que la blanche grappe du merisier.
Cesseras-tu tes phrases sans pied ni tête? Angèle répond-elle à mon amour.
L'amour est une étincelle jaillie de l'astre du jour.
Satanée diablesse! S'écria Bourgeot impatienté et s'élançant sur la vipère grise. Les chiens se ruèrent en hurlant contre l'audacieux, tandis que l'Iroquoise disait tranquillement.
Le grand esprit est plus fort que les visages pâles. Que mon frère daigne obéir à ses ordres.
Mais parle donc! L'Iroquoise allongea l'index en fermant les autres doigts, et les chiens s'éloignèrent.
Mon frère a un ennemi.
Alphonse Maigret.
L'ennemi de mon frère a séduit la Vierge aux pâles couleurs.
Il l'a séduite, dis-tu?
Ouaïche ne trompe jamais. Sa parole est limpide et claire comme l'onde des sources.
Et Alphonse Maigret, le chef de la rébellion, l'échappé de la prison de Montréal, c'est lui qui est maintenant chez Pierre Morlaix?
La devineresse était retournée près du cercle magique.
« Que mon frère pose sa main sur cette poudre, »
dit-elle, en indiquant à Bourgeot la poussière aux éclatantes couleurs. Le jeune homme obéit en silence. Sa main se dessina, en creux, dans la couche pulvérine, ainsi que toutes les lignes des phalanges et des muscles.
« Que les esprits parlent !»
dit la chiromancienne.
Et les deux lézards commencèrent à piétiner sur l'empreinte de la main, en rétrécissant, à chaque rotation, le fil qui les liait au pivot divinatoire. Pendant que ces reptiles accomplissaient leurs mouvements circulaires, la vipère grise avait bourré de pétun son calumet et fumait, enfoncé dans une profonde rêverie.
« Mon frère, » dit-elle à la fin, « la fille aux couleurs pâles est aimée d'Arescui. »
« Qu'ai-je à faire avec ton Arescui ?»«
Ce qui est sera. Le lézard vert s'est arrêté en travers sur la ligne médiane. C'est un signe de mort. »«
Mais, Angèle... »«
La Vierge se conforme aux volontés suprêmes. »«
Est-ce que le rebelle est chez Pierre Morlaix ?»«
L'abeille se réfugie dans le calice embaumé pour y pomper un suc nourrissant. »«
Que le diable t'emporte avec ton jargon auquel je n'entends rien !»
Le serpent rampe. Il atteint sa proie plus facilement que l'aigle qui fond sur elle. Va donc, à la faveur des ténèbres.
Fin du chapitre 11 de la 4e partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 12 de la 4e partie. La sorcière. De la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. La vipère grise parla longuement à l'oreille de Jacques Bourgeot, tantôt l'interrogeant, tantôt répondant à ses questions. Enfin, le jeune homme la quitta, en lui promettant de revenir le lendemain. Il ne manqua pas à sa promesse, et durant plusieurs jours, de fréquentes entrevues eurent lieu entre l'amant d'Angèle et la sorcière iroquoise. À la suite de leur dernière rencontre, la vipère grise lui dit
« Ouaïche m'est apparu, que mon frère soit satisfait. La vérité brille. Si mon frère se rend, cette nuit, dans la rue des Voltigeurs, près du wigwam de Pierre Morlaix, et si mon frère appelle trois fois « Au secours !» il saura ce qu'il veut savoir, si la Vierge aux pâles couleurs le trahit. »
Fidèle à cette recommandation, Bourgeot, vers 2 heures du matin, caché dans l'embrasure d'une porte, lieu d'où il pouvait épier ce qui se passait chez le charretier, cria de toutes ses forces « Au secours !» C'est alors que l'imprudente Angèle se montra, comme nous l'avons dit, à la fenêtre de la chambre occupée par Alphonse Maigret. Fin du chapitre 12 de la 4e partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 1 de la 5e partie. Jalousie contre amour. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. On a établi une différence entre le cœur et le cerveau, traduisez esprit. Au premier, disent certains physiologistes, appartiennent les sensations naturelles, au second, les sentiments étudiés. Tandis que Bichat, avec son effroyable science, définissait en trois mots le siège accepté de nos émotions et disait « le cœur, un muscle creux », Lord Byron méditait l'impressionnabilité unique et suprême du cerveau, brains. Si le français se posait en négateur des idées reçues, si l'anglais essayait de changer le trône de nos facultés, avait-il plus tort ou raison que le vieil Homère, s'écriant par la bouche de l'un de ses héros « Mon diaphragme vous aime ». Les progrès de la physique, mécanique, botanique, astronomie, chimie, pathologie et même de l'anatomie ont été considérables depuis un siècle. Mais cependant, on n'est point encore parvenu à déterminer l'organe réel des conceptions internes. Aussi acceptons-nous et accepterons-nous jusqu'à preuve du contraire l'antique tradition. Le cœur nous semblera jouer en nous un rôle passif et le cerveau un rôle actif. Celui-ci produira, celui-ci recevra. En d'autres termes, nous pensons que le cœur est soumis au contrôle du cerveau. Les organes extérieurs transmettent la sensation au cerveau, qui la juge, l'apprécie et renvoie au cœur le résultat de son examen. Et tandis que ce dernier subit la secousse, l'autre en diminue ou affaiblit l'effet pour lui-même. De là naît cette sorte d'antagonisme dans notre nature. Le cœur est ou profondément ulcéré, ou entièrement satisfait, alors que le cerveau nage dans un océan d'incertitude. Fin du chapitre 1 de la 5e partie. Enregistré par Nadine Kurt-Boulet à Copenhague en décembre 2010.
Chapitre 2 de la 5e partie. Jalousie contre amour. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Voilà certes des réflexions que Jacques Bourgeot ne se fit pas en apercevant le buste d'Angèle s'estompant dans la baie de la fenêtre, au milieu d'un nimbe de lumière projeté par la lampe. Mais ce qu'il n'analysa pas, il l'éprouva sur-le-champ, car, tandis que son cœur se serrait, douloureusement, son esprit cherchait encore à lutter contre l'évidence. Si, d'abord, il forma le projet de se rendre à la station de police pour déceler la retraite d'Alphonse Maigret, il abandonna bientôt ce dessein dans la crainte de s'être laissé tromper par les apparences. Que le rebelle ne fût pas caché chez Pierre Morlaix et, par sa déposition, Jacques se perdait dans l'esprit de celle qu'il aimait. Jamais elle ne lui pardonnerait d'avoir causé des tracasseries à une famille qu'elle chérissait au-delà de toute expression. Un résultat bien plus grave découlerait de la présence du prisonnier dans la maison du charretier. Pierre serait arrêté pour avoir prêté asile à l'évadé et, très certainement, son appréhension élèverait une barrière infranchissable entre Angèle et l'auteur de la dénonciation. La jalousie, la rage, l'amour faisaient bouillonner le sang de Bourgeot. Incertain, fiévreux, il cherchait à coordonner ses idées quand une voix murmura à son oreille
« Le serpent rampe, il atteint plus facilement sa proie que l'aigle qui fond dessus. »
Fin du chapitre 2 de la cinquième partie, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 3 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Jacques se retourna vivement. La vipère grise était devant lui.
« Mon frère est-il convaincu de la vérité de mes réponses ?» dit l'Iroquoise, en montrant Angèle et la mère Morlaix,
qui s'étaient aussi penchées à la fenêtre et s'enquéraient de la cause du cri qu'on avait entendu.
« Tes réponses ?» dit le jeune homme sans déguiser sa colère. « Tes réponses, que m'ont-elles prouvé? Suis-je plus avancé maintenant que je l'étais avant ma visite à ta hutte? Crois-tu que je ne savais pas ce qui se passe ?»« La fureur est aveugle, » reprit sentencieusement la sorcière. « Si mon frère n'avait pas confiance en Manitou, pourquoi donc aussi mon frère accuse-t-il la vipère grise? Ne lui a-t-elle pas enseigné ce qu'il désirait connaître ?»«
Soit, mais que veux-tu à présent? Qui t'a permis de surveiller mes actions ?»«
La fureur est aveugle, » répéta l'Iroquoise. « Elle empêche souvent les guerriers de surprendre leur ennemi. »«
Est-ce là tout ce que tu avais à me dire ?»«
Les visages pâles aiment mieux parler qu'écouter. Pourtant, celui qui veut être fort et dominer les autres doit apprendre à se taire. S'il repousse les avis avant de les entendre, l'esprit des conseils s'éloignera de lui et la victoire ne marchera pas sur ses traces.
« Éloignons-nous, » dit Jacques, « on nous observe. » Fin du chapitre 3 de la cinquième partie, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 4 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 4. La nuit était si calme que, bien que ce colloque eût lieu à une assez grande distance de la maison du charretier, le son des voix avait éveillé l'attention d'Angèle. « Ferme le châssis, mon enfant, » dit la mère Morlaix, après un instant de silence.
« C'est sans doute quelque feignant qui s'amuse à réveiller les voisins. »«
Chut !» fit la jeune fille, posant le doigt sur ses lèvres pour avertir la vieille dame de se taire. « Je crois... »«
Tu crois ?»«
Attendez un instant, je ne suis pas sûre. »« Ah ! Voilà la lune qui donne vers cette porte. »«
Quelle porte ?»«
Là-bas, la porte cochère de M. Perrin. »«
Petite folle, que veux-tu que je voie ?»«
C'est qu'il me semble... »«
Eh ben, c'est une coureuse d'Enghien, »
dit la vieille, distinguant le couple qui se serrait dans l'embrasure de la porte cochère.
« Oui, » reprit Angèle d'un ton agité, « c'est une indienne, mais il y a un homme avec elle. Et cet homme, si je ne me trompe ?»«
Eh ben,
c'est Jacques Bourgeot. »«
Pas possible.
Lui, Jacques Bourgeot, ton cavalier ?»«
J'ai peur, »
balbutia la jeune fille en frissonnant de tous ses membres.
« Peur ?»
Fin du chapitre 4 de la cinquième partie, enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en décembre 2010. Chapitre 5 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5.
Oui, ma mère, la présence de Jacques, ici, à 7 heures, en compagnie d'une sauvagesse, m'effraie. Tenez, ils partent ensemble.
Seigneur Dieu, tu t'effarouches comme une tourte devant un Milan, et pour rien encore.
Fermons le châssis, je vous en prie. Et allez réveiller Pierre, car je prévois de terribles maux. Cet homme, ce Bourgeot, oh, à présent je comprends sa conduite avec moi depuis 8 jours.
Qu'est-ce que tu me chantes là?
Oui, lui ordinairement si doux, si obéissant,
il est devenu tout à coup sombre, aigre. Il m'a questionné, m'a menacé. Oui, oui, je comprends tout, tout maintenant. Mais dépêchez-vous, ma bonne mère. Dites à Pierre que je veux lui parler.
Qu'y a-t-il donc ? Demanda le blessé, en s'accoudant sur son lit.
Qu'avez-vous, mademoiselle ? Votre visage est décomposé. Rien, je n'ai rien. Ne vous inquiétez pas,
balbutia la jeune fille, d'un ton qui démentait le sens de ses paroles. Cependant, essaya encore Alphonse, appréhendant quelque sinistre. L'arrivée de Pierre Morlaix, qui accourait à demi vêtu, coupa court à ce dialogue.
« Ah, mon ami !» dit la jeune fille, entraînant le charretier dans un coin de l'appartement. « Je crois qu'un grand malheur nous menace. »
Fin du chapitre 5 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet, à Copenhague, en décembre 2010. Chapitre 6 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6. Jacques avait emmené l'Iroquoise sur le glacis du Champ de Mars et discutait chaleureusement avec elle. « Allons, terminons-en » s'écria-t-il.
« Mon frère s'emporte comme l'original qui flaire la poudre du chasseur blanc. Mais les esprits veulent que l'homme brave marche régulièrement comme l'eau du grand fleuve. Que mon frère fasse à mi-chabou les présents nécessaires, et le rival de mon frère disparaîtra avant le lever du soleil.
« Mais un meurtre !» murmura involontairement Bourgeot. « Un meurtre ! Oh ! Je ne puis consentir. »
« Le visage pâle n'a pour ennemi que des visages pâles, » dit la vipère grise,
enveloppant, suivant l'habitude des Indiens, sa pensée dans des généralités. « Notre conversation restera à jamais secrète. »«
Le feu brûle, le poisson nage, l'Iroquois sait se taire quand il veut. »«
Bon, » dit Jacques, avec une impatience fébrile, tandis que de grosses gouttes de sueur perlaient sur son visage. « Bon, je consens. Tu auras ce que tu exiges. » Fin du chapitre 6 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet, à Copenhague, en janvier 2011. Chapitre 7 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 7. Cependant, Pierre Morlaix, qui avait écouté avec une grande attention ce que lui communiquait Angèle à voix basse, fit tout à coup un geste de surprise.
« Quoi ? Jacques Bourgeot ? » s'écria-t-il. « Es-tu ben certaine ? Aussi certaine que je vous vois. Je l'ai parfaitement reconnu. D'ailleurs, je ne saurais me méprendre. Le timbre de sa voix est trop particulier pour qu'on le confonde avec un autre. »
« De fait, il a un tic dans le gosier, ce garçon-là, » dit le charretier.
« Pourtant, rien ne prouve. Je vous répète qu'il médite quelque trahison. Croyez-en ma pénétration, mon bon Pierre. Depuis que ce pauvre jeune homme est ici, Jacques rôde sans cesse autour de la maison et... »
Batiscan.
Note. Baptême, bateau, batiscan sont les trois jurons favoris des Canadiens. Fin de la note.
Je crée que t'as raison, ma fille, et que ce Flandrin nous mitonne du grabuge. Peut-être ben aussi que nous avons eu tort de nous embarquer dans cette mauvaise affaire, car les brigands de policemen ne plaisantent pas.
Ah, Pierre, dit Angèle d'un ton de doux reproche,
pouvez-vous tenir un pareil langage, vous si brave, si généreux?
Dame, « écoute donc, si ce n'était que moi, je me ficherais pas mal de tous les policemen, comme de rien en toutes.
Mais toi, petite, toi, tu seras dans de beaux draps s'ils apprennent. Moi, oh, n'ayez pas d'inquiétude. 2 heures, au moins, s'écouleront avant qu'il n'ait eu le temps d'avertir la police et faire signer le warrant, ainsi... »
Note. Warrant, mandat d'amener. Fin de la note. « Oui, dit Morlaix en se frappant le front.
« Oui, j'approuve ton idée. Allons, je vais finir de m'habiller et atteler. Tu retourneras à ta chambre. »«
Non, » dit Angèle, retenant le charretier par la manche.
« Vous ne me comprenez pas. Il faut que vous restiez ici. Dans le cas où l'on opérerait une visite domiciliaire, votre absence susciterait des soupçons. »
« Je n'y avais pas songé. C'est vrai. Mais qui veux-tu qu'il charrie ?»«
Moi.
répondit vivement la jeune fille. Ah bon, t'as de l'esprit comme un ange. Je te donnerai la grise. Elle est douce et fameuse trotteuse. N'y a plus qu'à l'harnacher, n'est-ce pas ?
Angèle répliqua affirmativement par un signe de tête, et Pierre courut à son écurie. Fin du chapitre 7 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre 8 de la cinquième partie. Jalousie contre amour. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 8. Durant ce dialogue, la mère Morlaix avait fait chauffer un bouillon pour le malade. « Buvez, » dit-elle en lui présentant une tasse pleine du consommé. « Buvez, ça vous ravigotera. »« Merci, ma bonne dame, » répondit Alphonse, repoussant doucement la tasse. « Je n'ai point soif. »«
Il faut boire, monsieur, » ajouta Angèle, qui s'était approchée du lit. « Car vous avez besoin de gagner des forces. Nous allons faire un petit voyage. »
« Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu bavasses là, ma fille ? » s'écria la vieille, au comble de la surprise.
« J'appréhende, ma mère, que la retraite de M. Maigret n'ait été découverte, et, de peur d'accident, je suis convenue avec Pierre de mener notre blessé en lieu plus sûr. »«
Mademoiselle ! » balbutia Alphonse.
« Point d'observation, monsieur, nous n'avons pas un moment à perdre. Buvez ce bouillon, puis ma mère vous aidera à vous vêtir, tandis que j'irai prendre ma mante. »
« Mais il n'est pas capable de se tenir des bouts, ce pauvre jeune homme, » dit la vieille femme.
« Où est-ce que tu veux donc qu'il se retire à cette heure ?»«
À la Côte des Neiges. »«
Ah, chez Monsieur Jobinet !»«
Oui, oui, » reprit Angèle, « hâtons-nous. Voyez, il est près de 3 heures à l'horloge. Nous devons nous dépêcher pour arriver avant le grand jour. »
Après ces mots, elle sortit, et la mère Morlaix ayant pris, dans une armoire, l'habillement des dimanches de son fils, en eut bientôt revêtu l'intéressant malade. Fin du chapitre 8 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre 9 de la cinquième partie. Jalousie contre amour. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 9. Malgré son extrême débilité, Alphonse put descendre dans la cour, appuyé au bras du charretier. Inutile de rapporter les expressions de remerciement dont il gratifia ses dignes hôtes avant de monter en voiture. On sait assez que le cœur de notre ami était un foyer de gratitude pour qu'il nous soit permis de passer sous silence les protestations de reconnaissance qu'il leur adressa.
« En route et bonne chance !» dit Pierre en lui serrant la main.
Déjà, la grise hennissait et creusait le sol de son sabot, impatiente de dévorer l'espace. Angèle s'élança lestement dans la calèche, dès qu'on y eut placé son cher malade. À cet instant, un bruit de pas lointain se fit entendre.
« Vite, vite !» fit Pierre. « Prends par la rue Sainte-Catherine et la rue Saint-Laurent. »«
N'oubliez pas, » dit la jeune fille, « de faire disparaître de la chambre tout ce qui indiquerait sa récente occupation. »
« Bien, marche, et que Dieu vous protège !»
Fin du chapitre 9 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre 10 de la cinquième partie. Jalousie contre amour. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 10. Celui qui se réveille à la suite d'une violente maladie et se trouve transporté dans un appartement qu'il n'a jamais vu, en tête à tête avec une jeune fille inconnue, mais ravissante, étrangère mais empressée, mais attentive comme une sœur, celui-là s'imagine être le jouet d'un rêve et longtemps refuse de croire à la réalité. Puis, insensiblement, à mesure que ses sens s'ouvrent à la lumière, il repasse ses souvenirs, compare son passé avec son présent, et s'il est jeune, s'il est libre, il supplie l'être suprême de prolonger l'état de souffrance qui lui vaut un pareil bonheur. Ce n'est que lorsqu'il est endolori et affaibli par des peines physiques ou morales que l'homme apprécie la femme à sa juste valeur. Tant qu'il est valide et heureux,
il considère assez généralement l'autre partie du genre humain comme inférieure à lui. Mais vienne la maladie, les tribulations, l'homme préfère la société de la femme à celle de l'homme, parce que la femme a toujours à sa disposition des trésors de tendresse, des délicatesses de prévoyance que les hommes ne possèdent pas. De son côté, la femme, auprès d'un valétudinaire, semble abandonner la faiblesse ordinaire à ses semblables pour grandir en raison de la défaillance de l'homme. Elle est fière de la supériorité que, temporairement, elle exerce sur lui. Elle se figure presque, en ramenant un homme dans le sentier de l'espérance ou de la vie, faire de lui un personnage nouveau dont elle est la créatrice. Ne soyons donc pas étonnés si un amour réciproque finit fréquemment par embraser celui qui reçoit les soins et celle qui les donne. Chez tous deux, cet amour est le fruit de l'égoïsme. Égoïsme de la reconnaissance chez le premier, égoïsme de l'artiste chez l'autre. Fin du chapitre 10 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre 11 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 11. Angèle manégeait parfaitement un cheval. Façonnée par sa main, la grise emportait son léger véhicule avec une rapidité aérienne, et, en quelques minutes, les dernières maisons de Montréal disparurent dans les brumes de la nuit. La chaleur avait été intense pendant toute la journée précédente, et un orage, chassé par le vent à l'heure du crépuscule, rassemblait alors ses nuées vers l'Orient. Nulle brise ne faisait frissonner les feuilles des arbres, nul oiseau matinal ne saluait de son ramage l'approche de l'aurore. Mais, du Saint-Laurent s'élevaient des vapeurs blanchâtres, et de fréquents éclairs lacéraient les limites de l'horizon. Plongé dans une sorte d'abattement fiévreux, Alphonse Maigret restait insensible aux menaces de la nature. Il se pensait le héros d'un des contes d'Hoffmann. Angèle, agitée par mille émotions diverses, restait muette. L'un et l'autre, néanmoins, se sentaient nager sur un océan de félicité que troublait à peine l'imminence des périls dont ils étaient environnés. Le jeune homme jouissait du présent sans définir la béatitude qui l'inondait. La jeune fille jouissait de l'avenir, sans en distinguer les couleurs. Elle naissait à la vie en naissant à l'amour. Être aimée de lui, tel était désormais l'unique désir d'Angèle. Et lui l'aimait, Angèle le savait. Les regards d'Alphonse, le tremblement de sa main dans la sienne, ne lui avait-il pas prouvé qu'elle était payée de retour? Quand on aime sincèrement pour la première fois, on se demande comment l'on a pu exister auparavant sans amour. Puis, l'on s'abandonne à la joie, et le vide du cœur fait place à une suave ivresse dont la mort seule peut éteindre le souvenir. Fin du chapitre 11 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2011. Chapitre 12 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 12. La calèche brûlait la route en soulevant des flots de poussière. Les deux jeunes gens n'avaient pas encore échangé une parole lorsque, tout à coup, le ciel s'illumina d'une lueur fulgurante accompagnée d'un épouvantable coup de tonnerre. Effrayée par l'éclair et par l'explosion de la foudre, la grise fit un violent écart. Angèle essaya de la maîtriser, mais, surprise au moment où elle s'y attendait le moins, au lieu de rendre les rênes, elle les tira à elle, et l'animal continua de reculer vers le fossé qui bordait le chemin. « Lâchez les guides, lâchez les guides !» lui dit Alphonse. Il n'était plus temps. La voiture roula dans le fossé. Par bonheur, un gros peuplier l'arrêta dans sa chute et l'empêcha de se renverser sur le côté. Angèle alors sauta à terre, saisit le cheval par la figure et le ramena sur la route. « Mon Dieu !»
dit-elle en se rasseyant à côté d'Alphonse. « Vous n'êtes pas blessé, j'espère ?»«
Non, répondit le charpentier.
Mais vous ?»«
Oh, moi !» reprit-elle en souriant. « J'en suis quitte pour la peur. Maudite, étourdie, je ne sais vraiment à quoi je songeais. Qu'est-ce donc encore ? Voici la grise qui refuse d'avancer.
Ah ! Miséricorde divine ! Qui sont ces hommes ?»
Fin du chapitre 12 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en janvier 2011.
Chapitre 13 de la cinquième partie, Jalousie contre amour, de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 13. La calèche avait atteint la lisière du bois. Trois individus, de mauvaise mine, se tenaient debout derrière un arbre abattu qui barrait le passage.
« Stop !»
cria l'un d'eux avec un brogue très prononcé. Note, brogue, patois irlandais. Fin de la note. L'injonction était inutile, car la grise s'était arrêtée court devant l'obstacle, en reniflant bruyamment l'air et en frappant du pied.
« Sainte Vierge !» murmura Angèle. « Serait-ce des brigands ?»«
Que voulez-vous ? » demanda Alphonse, en élevant la voix autant qu'il put.
« Chut, taisez-vous !»
reprit la jeune fille, posant ses doigts sur les lèvres de son compagnon.
« Si c'était des gens envoyés à votre poursuite ?»«
La bourse ou la vie !»
répondait en même temps l'homme qui les avait apostrophés. « Ce sont des voleurs, rassurez-vous, » dit Maigret à sa libératrice. Les trois hommes avaient franchi la barrière qui les séparait des voyageurs, et deux d'entre eux s'étaient approchés de la voiture, tandis que le troisième maintenait le cheval par la bride.
« Pas de cri !» dit le premier interlocuteur en armant un pistolet. « Si vous appelez, vous êtes mort !»«
Nous ne possédons rien, mademoiselle et moi, » répondit Alphonse en anglais.
« C'est ce que nous verrons, mais hors de la voiture. »«
Ce monsieur est malade !»
dit Angèle, dont l'amour exaltait le courage jusqu'à l'héroïsme.
« Est-ce que nous nous serions trompés ?» marmotta le bandit. « John, passe-moi la lanterne. »
Le personnage apostrophé tira de dessous sa souquenille une lanterne sourde et la remit à son camarade. Celui-ci la porta à la hauteur du visage d'Alphonse et recula d'un pas.
« By Jesus Christ ! Vois-je ou ne vois-je pas clair ? »
s'écria-t-il.
« Mike ! »
dit Alphonse avec non moins d'étonnement.
« Mon compagnon de prison ! »
« Vous êtes aussi échappé ? »
Eh, grâce à vous, monsieur, j'ai dit adieu à la jug. »
Note, littéralement, cruche, en argot anglais, prison. Fin de la note.
Une coquine de balle m'avait caressé le pouce quand nous chevauchions sur le mur, vous vous rappelez, ce qui m'avait fait faire un saut de carpe et retomber sur le préau. On m'empoigna et me mit à l'infirmerie. C'était mon affaire, car le lendemain, je pris honnêtement congé de notre geôlier par la porte de sa cassine.
Et maintenant ?
Maintenant, je cherche à gagner ma pauvre vie. Si vous avez besoin de moi, je suis tout à votre disposition. Oh, je sais obliger qui m'a obligé.
Je voudrais passer. Je suis très pressée.
Les chiens de policemen seraient-ils encore sur votre piste ?
Oui.
Allons, les anciens, cria Michael à ses complices, qui ne soufflaient mot. Allons, nous avons commis une erreur. Respect à ce bourgeois. Débarrassons la route.
S'étant mis à l'œuvre, ils écartèrent l'arbre. Puis l'Irlandais revint vers la voiture, se hissa sur le marchepied et dit à Maigret
« Jurez-moi, sur le salut de votre âme, que jamais vous ne parlerez de notre rencontre ici. »«
Je le jure, » répliqua Alphonse.
« Puis-je aussi compter sur la parole de cette demoiselle ?»«
Oh oui !»
s'écria vivement Angèle.
« C'est bien, » dit Mike. « Allez !»
Aussitôt, la calèche s'éloigna à fond de train. Mais elle n'avait pas fait un mille que deux coups de feu ébranlèrent tous les échos de la montagne.
« Ciel, entendez-vous ? » balbutia la jeune fille.
Soit qu'il fût entièrement brisé par la diversité de ses secousses successives, soit qu'il fût absorbé par ses réflexions, le charpentier n'entendit ni les détonations lointaines, ni l'apostrophe de son ami. Fin du chapitre 13 de la cinquième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en février 2011. Chapitre 14 de la cinquième partie Jalousie contre amour de la fille du pirate par Henri Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 14. Profitons de la distance qui sépare encore notre fugitif de la Côte des Neiges pour entrer chez M. Jobinet, où il doit trouver un asile, et faire connaissance avec ce personnage. M. Jobinet est français d'origine. Il réside au Canada depuis une quarantaine d'années, y a fait une belle fortune dans le commerce des chevaux, et jouit en ce moment de 12 lustres bien sonnés. Nul symptôme de caducité n'accompagne sa vieillesse, riche de verdeur, de force et d'élasticité. M. Jobinet, dans ses rapports de maquignonnage avec les Yankees, s'est pénétré de l'excellence des institutions libérales. Aussi le cite-t-on, à 10 000 à la ronde, comme un homme de progrès. Mais M. Jobinet possède de bons lots de terre au soleil, 3 maisons à la ville, une à la campagne, des louis d'or en veux-tu en v'là, et personne ne s'avise de contrecarrer M. Jobinet. « Quand on est gréé comme lui, disent les habitants, on n'a pas le droit de prendre le vent qu'on veut. » M. Jobinet avait été le fournisseur de Pierre Morlaix. Carillon, la brune, ces incomparables bêtes, dont le souvenir arrachait encore des larmes aux yeux du charretier, étaient sortis du haras de M. Jobinet. Pas besoin d'ajouter, après cela, que Pierre avait pour le sudit M. Jobinet une estime mêlée de vénération et de respect. Les deux célibataires, car M. Jobinet était demeuré fidèle à Saint-Nicolas en dépit de toutes les séductions, vidaient quelques flacons de vieux vin français chaque fois que des affaires appelaient Pierre Morlaix à la Côte des Neiges. Leur attachement réciproque avait cru en raison de la somme d'expansion que leur avait procurée la bouteille. Un jour, M. Jobinet s'aperçut qu'il était trop seul. Il pria son ami Pierre de vouloir bien lui confier Angèle, jeune fille que le charretier avait adoptée. Mais celui-ci secoua la tête. « Voyez-vous, monsieur, dit-il, n'était que moi, je consentirai, mais Angèle refusera. L'enfant est fier, ah, dame! Amène-la-moi, je la déciderai. » Morlaix amena Angèle le lendemain. L'ex-maquignon lui soumit ses propositions. « Demeurez avec moi, mademoiselle. Je vous traiterai comme j'aurais traité ma pauvre fille si j'en avais eu une. » Me voici vieux, hé hé, la mort approche, je suis sans héritier direct, etc. Ces tentatives furent infructueuses. Angèle ne voulait rien devoir à personne. Elle rejeta poliment les offres brillantes de M. Jobinet. Tout ce qu'il put obtenir d'elle, c'est qu'elle viendrait chaque dimanche s'ennuyer, ce fut son expression, auprès de lui. Angèle tint parole, et au lieu de s'ennuyer avec l'ancien marchand de chevaux, elle trouva tant de charme dans sa conversation qu'elle lui renouvela scrupuleusement ses visites chaque semaine. M. Jobinet avait reçu une éducation passable dans sa jeunesse. Plus tard, il avait roulé sa bosse sur 3 parties du monde. À défaut d'érudition, il était doué d'une mémoire heureuse, d'un jugement sain, et avait largement profité de ses voyages pour étudier les hommes et les choses. Quelques grains de sel, dont il savait, à propos, assaisonner ses récits, en relevaient la saveur et soutenaient l'attention de ses auditeurs. La fréquentation du bon vieillard profita beaucoup à Angèle, et M. Jobinet ne tarda guère à concevoir, pour l'adorable jeune fille, cette tendresse idolâtre que les gens âgés conçoivent habituellement pour les derniers fruits de leur sénilité ou pour ceux qui parviennent à ranimer la flamme agonisante de leur sensibilité. Alors il supplia notre ami de renoncer à ses travaux manuels et de prendre part aux richesses qu'il avait amassées. Il essaya de faire jouer en elle les ressorts de la coquetterie, de la vanité, les deux mobiles principaux des femmes. Tout fut inutile. Il dut s'incliner devant l'obstination de la jeune fille. Mais, désireux de lui épargner de la peine quoi qu'il lui en coûtât, au moyen d'un tiers, M. Jobinet commanda à Angèle divers ouvrages de couture, qu'il lui paya fort cher et revendit ensuite à vil prix. Cette délicate supercherie eut l'effet qu'il en attendait. Au lieu de végéter, comme la plupart de ses compagnes qui gagnent difficilement assez pour subvenir aux frais de leur entretien, Angèle vivait dans une abondance presque luxurieuse. Fin du chapitre 14 de la 5e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en février 2011. Chapitre 15 de la 5e partie. Jalousie contre amour. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 15. Maintenant que nous avons esquissé les relations de quelques-uns de nos personnages avec M. Jobinet, retournons à la calèche qui arrive au village de la Côte des Neiges. L'aurore se levait derrière un rideau de lourds nuages noirs, et quelques grosses gouttes de pluie commençaient à tomber. Angèle dirigea la grise dans une étroite allée encaissée entre des haies d'aubépine et, bientôt, longea une clôture formée par d'épais buissons artistement taillés. Derrière la clôture, on apercevait un vaste jardin potager borné au sud par une charmante maison de campagne. « Attendez une minute, » dit la jeune fille en arrêtant près de la porte de la clôture. Elle sauta à terre, ouvrit la porte simplement fermée par un lien d'osier et s'avança vers une fenêtre de l'habitation. Au moment où elle atteignait cette fenêtre, elle s'ouvrit et un homme montra sa tête. « Comment est-ce possible, vous, mon enfant ?»«
Monsieur Jobinet, j'ai un service à vous demander. »«
Entrez, alors. »«
Non. »
Et la jeune fille se hâta de raconter les aventures de son protégé. « C'est grave, » dit Monsieur Jobinet, « mais il n'y a pas à hésiter. Les domestiques ne sont pas encore debout. Nous le déposerons provisoirement dans la chambre bleue. Elle donne sur le jardin. On le passera par la croisée. Dans la journée, j'aviserai. » « Bien, allons le chercher. » Monsieur Jobinet sortit immédiatement. Au bout de 5 minutes, Alphonse Maigret fut établi dans la chambre bleue, sur un lit de camp qu'Angèle s'était empressée de lui dresser. « À présent, dit le vieillard à la jeune fille, je vais vous reconduire, afin de détruire les soupçons que pourrait faire naître votre venue ici, et donner des ordres pour que Monsieur Maigret ne soit pas troublé durant mon absence. » Ils montèrent en voiture et reprirent le chemin de Montréal. Comme ils touchaient à la lisière du bois, près de Mile End, la grise fit un faux pas et l'animal s'affaissa sur les jarrets. Monsieur Jobinet descendit pour aider le cheval à se relever. Mais, en se baissant, il remarqua que le sol était violemment foulé et couvert de traces rouges qui partaient d'une mare de sang dans laquelle la grise avait glissé et s'étendait jusqu'au fourré.
« Que signifie cela ? » s'écria-t-il. « Qu'est-ce ? »
s'enquit Angèle en se penchant sur le rebord de la calèche.
« Oh ! » fit-elle avec un geste d'horreur. « Du sang ! Ces coups de pistolet ! » !»«
Que dites-vous ? » ?»«
Ah ! Je ne vous ai pas encore appris ?»«
Une carte ! » interrompit M. Jobinet. « Mais elle est déchirée. » Et il tenait à la main un morceau de carton glacé sur lequel on lisait la moitié d'un nom.
« Montrez, » dit Angèle.
« Voici, mon enfant, » dit le vieillard, en lui présentant l'objet tout maculé de boue et de sang. « Madame et Monsieur Bourg... »«
Un crime ?»
balbutia la jeune fille. Fin du chapitre 15 de la 5e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en février 2011. Chapitre 1 de la 6e partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 1. Il est 10 heures du soir environ. La pluie tombe à torrents. Des éclairs blafards déchirent le manteau des astres. Les roulements du tonnerre remplissent l'espace de son sourd et caverneux, et le Saint-Laurent, mêlant sa voix à celle de la tempête, déferle bruyamment ses lames moutonneuses contre les jetées du rivage. Les quais de Montréal sont déserts. Les nombreuses tavernes de la rue des Commissaires et de la rue de la Commune, closes, pour la plupart. Seuls quelques rares fanaux, élevés sur la grève, guident la marche des navires attardés. La nuit est plus noire que l'aile du corbeau, plus affreuse qu'une légende allemande. Vous entendez le craquement des vaisseaux, qui s'entrechoquent, le grincement de leurs chaînes, le sifflement des rafales dans leurs agrès, et, par-dessus tout, le grondement rauque et formidable des éléments en furie. Batelier, prends garde à ton esquif. Passant, prends garde à ta bourse. Ami, hâtez-vous de rentrer au logis, car la ruine, la désolation, la mort planent de toute leur envergure sur la ville de Montréal. Voyez, de l'ouragan c'est le cours furieux. Terrible, il prend son vol, et dans des flots de poudre, part, conduisant la nuit, la tempête et la foudre. Fin du chapitre 1 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011. Chapitre 2 de la sixième partie, une histoire sanglante, de la fille du pirate, par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Silence. Écoutons. Over the glad waters of the dark blue sea, our thoughts as boundless and our souls as free, far as the breeze can bear, the billows foam, survey our empire, and behold our home. These are our realms, no limits to their sway, our flag the sceptre, who all meet obey, ours the wild life in tumult still to range, from toil to rest, and joy in every change. Des applaudissements frénétiques accueillent ces paroles lancées comme un défi à la fureur de la nature. Qui ose porter cet insolent cartel? Paix. Le chant continue. Oh, who can tell, not thou luxurious slave, whose soul would sicken over the heaving wave, not thou, vain lord of wantonness and case, whom slumber soothes not pleasure cannot please. Oh, who can tell, save he whose heart hath tried and danced in triumph o'er the waters wide, the exulting sense, the pulse's maddening play, that thrills the wanderer of that trackless way. Note. Voici la traduction aussi littérale que possible de ce morceau. Sur fonde joyeuse de la mer azurée, sans bornes comme notre esprit et nos âmes, aussi loin que peut souffler la brise, et que la vague écumante peut mugir, contemplez notre empire, voyez notre demeure. C'est là qu'est notre royaume, sa domination n'a pas de limite. Notre sceptre est le drapeau auquel tous doivent obéir. Notre vie errante est de toujours passer du travail au repos, que la joie accompagne à chaque changement. Oh, qui peut le dire? Ce n'est pas toi, esclave de la luxure, toi dont l'âme tremble à l'aspect de la vague qui s'élance, ni toi, seigneur vaniteux, adonné au libertinage et à la paresse, toi que le sommeil ne calme pas. Oh, qui peut le dire, si ce n'est celui qui l'a essayé, qui a été bercé en triomphe sur l'immense sein des mers, qui a senti cette émotion enivrante, cette pulsation accélérée qui fait battre le cœur du voyageur qui sillonne les eaux sans laisser de traces. Fin de la note. Les applaudissements redoublent, et la nuit est toujours aussi noire que l'aile d'un corbeau, plus affreuse qu'une légende allemande. Vous entendez le craquement des vaisseaux qui s'entrechoquent, le grincement de leurs chaînes, le sifflement des rafales dans leurs agrès, et, par-dessus tout, le grondement rauque et formidable des éléments en furie. Fin du chapitre 2 de la sixième partie. Enregistré par Nadine Ekert-Boulet à Copenhague en mars 2011.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com. Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.